Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Bonjour à tous, je suis Alice Haché. Je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'Empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Pierrick Doron, le CEO de Biocoop. Salut Pierrick.
Salut.
Je suis ravie de t'accueillir dans l'Empreinte.
Oui,
bon, tu vas me faire ma baseline en fait. Tu vas me raconter ce qu'est Biocoop d'abord avant de commencer l'épisode.
Alors Biocoop, c'est une coopérative de magasins, de producteurs, de salariés et d'associations de consommateurs. Et l'histoire de Biocoop est née des territoires. Donc au départ, dans les années 80, c'est un mouvement d'idées, fin des années 70-80, un mouvement d'idées et des consommateurs qui sont réunis dans des garages pour monter des associations ou des coopératives de consommateurs pour trouver des produits bio. Donc au départ, c'est...
Donc il y avait bien un engouement pour le bio dans les années 80.
Alors l'engouement était quand même très, très, très minoritaire.
Voilà.
Parce que le label est à peine né, est né à peu près en même temps, hein, dans les années, fin des années 80. Donc l'engouement, non.
C'était, en fait, c'est monté en même temps que le label.
Ce militantisme-là qui a monté le bio qu'on connaît aujourd'hui, ce cahier des charges, c'est par ces consommateurs-là et ces producteurs qui cherchaient des débouchés. Et donc, mis bout à bout, il y a eu plein d'énergie sur différents territoires. Il y a une cinquantaine de ces structures qui s'est retrouvée à Annecy en 86 pour monter l'association Biocoop, au départ une association, et qui a notamment écrit la charte Biocoop, qui est encore dans tous les magasins aujourd'hui et qui est d'une modernité absolue. C'est-à-dire que l'objectif de Biocoop, c'est de développer l'agriculture biologique dans un esprit d'équité et de coopération. Et c'est loin d'avoir pris une ride. Au départ, c'était un peu même toisé par le monde classique. C'était très alternatif de voir ce mouvement-là. Et aujourd'hui, c'est complètement moderne et c'est complètement dans les attentes des consommateurs. Et donc derrière cette construction-là, on a, au fil des années, hein, et avec beaucoup d'empirisme, construit une coopérative qui aujourd'hui a une section agricole, des producteurs associés, producteurs et productrices associés de Biocoop, qui sont à la gouvernance. Donc, il y a 20 groupements de producteurs qui représentent 3200 fermes qui sont au conseil d'administration. Il y a deux producteurs au conseil d'administration, plus des salariés sociétaires, à peu près 500 salariés sociétaires. Donc, chaque salarié de Biocoop, il y en a 7000 aujourd'hui entre les magasins et les services centraux, en tout cas les services de la coopérative, qui peuvent prendre une part dans Biocoop et participer à la stratégie, aux ambitions de Biocoop et construire le Biocoop dans 2 ans, 3 ans, 5 ans.
Et comment on peut devenir un agriculteur ou un producteur Biocoop en fait? Est-ce qu'il faut souscrire à quelque chose, un cahier des charges, je suppose, mais autre chose?
Alors, il y a forcément le cahier des charges, en tout cas, ils sont bio. Et donc, pour être producteur, alors on peut être producteur, fournir un magasin. Donc, Biocoop développe la production locale. Donc là, on a 7000 producteurs locaux qui travaillent avec les magasins, sociétaires magasins sur les territoires. Et ensuite, on a travaillé avec des groupements de producteurs, donc des coopératives. Alors, ils ne sont pas tous sous statut coopératif, mais en tout cas, ils sont en statut collectif. Et ces groupements, c'est avec eux qu'on construit la bio exigeante. On a construit un cahier des charges. Co-construit au sein de Biocoop un cahier des charges commerce équitable France qui s'appelle Bioéquitable en France aujourd'hui. Et donc, par exemple, ces producteurs-là s'engagent à ne pas avoir de travailleurs détachés sur leur ferme. Et donc, c'est 100% bio, équitable, répartition de la valeur. Il y a un retour, 1% du chiffre d'affaires leur est reversé pour réinvestir, pour progresser. On planifie sur 3 à 5 ans selon les productions. Par exemple, c'est grâce avec un de ces groupements-là qu'on relocalise le maïs doux avec une entreprise transformatrice en France. Donc, à partir du printemps, on va avoir du maïs doux français équitable chez Biocoop. Et on a fait ça sur beaucoup, beaucoup de productions.
C'est vrai que le maïs, c'était vraiment le produit où on voyait marqué OGM, en gros. Donc,
alors, en plus, il y a tout ça. C'est souvent importé.
Mais ça a dû être... Donc, finalement, Biocoop, c'est presque le pionnier en matière de bio, vu qu'il a presque émergé en même temps que le label.
Alors, il y a eu plusieurs pionniers. On va rendre à César ce qui appartient à César.
Rendons à César.
La Vie Claire est un réseau historique, enfin, beaucoup plus ancien que Biocoop. Je crois que c'est juste après-guerre. La Vie Claire est née après-guerre, mais plus sur des aspects diététiques. Donc, santé,
c'est un peu ce que j'avais en tête. Ouais. Voilà. Plus healthy, plus avec sans gluten, etc., avec des intolérances.
Voilà, l'ADN de la Vie Claire, ça a évolué aussi comme Biocoop au fil des années. Biocoop a un lien beaucoup plus à l'amont, effectivement, à la production, aux produits. On a
Pour moi, Biocoop, c'est quand je rentre, c'est ces grands... D'ailleurs, il y en a un qui a ouvert à Boulogne, parce que j'habite Boulogne. Maintenant, tout le monde le sait. Il y en a un qui a ouvert, et en fait, c'est ce qu'on voit en premier, c'est ces grands rayons vrac.
Bah, c'est au-delà du cahier des charges bio, l'idée, c'est toujours, je ne vais pas parler au passé, mais c'est de pousser une consommation durable. Et le vrac, c'est un élément primordial dans sa manière de consommer. Alors, déjà pour les questions d'emballage, mais aussi pour les questions de prix. C'est-à-dire, on achète ce qu'on veut, c'est moins cher.
Donc, c'est plus accessible aussi pour le consommateur.
Bah oui, finalement. Oui. La question du prix se pose souvent autour du bio et puis de la bio de Biocoop aussi, parce qu'on a effectivement un cahier des charges exigeant avec cette équité. Tout ça, c'est un coût au final. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'accompagner les consommateurs à changer un petit peu leur fusil d'épaule en termes de consommation, donc aller vers le vrac, peut-être un peu plus de végétal, moins de carnet, etc., pour faire en sorte que le budget alimentation reste à peu près similaire, ou en tout cas, ce soit acceptable et supportable pour une famille ou un couple, en tout cas.
Mais dans les années 80-90, le vrac, ça devait paraître complètement fou pour les consommateurs. Comment est-ce que, déjà, tu as vu évoluer cette tendance qui maintenant revient finalement au basique, quoi, au vrac, on arrive avec notre boîte d'œufs et puis on va prendre nos œufs. Je dis ça, mais pas encore tout le monde. Hein. Il faut encore en éduquer pas mal.
Non, mais c'est pas évident parce que la consommation de masse, en fait, toute la pratique de consommation de masse de la grande distribution,
l'américanisation aussi
Mais ça a facilité la vie des gens.
C'est-à-dire,
effectivement, on a emballé de l'eau.
On a jeté ensuite.
Alors maintenant, on commence à se rendre compte qu'il y a plein d'effets négatifs à ça, mais le summum, c'était quand même d'aller faire ses courses, acheter de l'emballé, etc. Et là, on revient de manière plus forte à une consommation vrac qui nous oblige à être moins confortable dans nos achats. Effectivement, il faut ramener ses bocaux. Et donc, tout le travail de Biocoop, c'est de faciliter la vie des consommateurs dans leur acte d'achat. Alors, au départ, pour revenir à la question, c'était vraiment un acte très militant, évidemment. Alors, ça part un peu de la logique d'association de consommateurs qui achètent des sacs de riz et qui partagent dans un garage entre toutes les familles. Donc, cette culture-là, elle est restée pendant quand même très longtemps. Mais après, ce militantisme, il a aussi une forme de limite, c'est-à-dire comment on fait progresser ces ventes-là. Et aujourd'hui, le vrac qu'on connaît dans les silos, c'est 15% de notre chiffre d'affaires. Et le vrac avec fruits et légumes, boucherie, on est à plus du tiers. On vise la moitié. Et c'est vraiment une ambition forte parce que Biocoop doit peser aussi sur la vente de vrac en général, pas que celle en bio. Et on voit bien aujourd'hui qu'on est un des grands acteurs de vente en vrac. Oui.
Et on parle du vrac, et donc forcément, avec la crise Covid, finalement, tout le monde revient un peu donc au basique, à cette consommation, à la relocalisation de ses produits, etc. Mais le vrac, on se dit aussi, en termes d'hygiène, peut-être, c'est pas emballé. Mais je sais que la question, même moi, je me suis posé la question. Alors, au moment où vraiment je flippais, premier confinement, est-ce que je vais vraiment prendre mes trucs en vrac? Je ne suis pas sûre. Quoi.
Oui, alors la crise, elle a accéléré les tendances qui étaient déjà présentes quand même assez fortement avant la crise, avant la crise sanitaire. Donc, cette envie de relocalisation, cette envie de circuit court, production locale, bio, qualité,
traçabilité.
Mmh. Voilà. Donc, et après, effectivement, ça a bousculé aussi beaucoup l'acte d'achat avec le développement du e-commerce et quelques reculs, en tout cas au départ, assez forts sur l'achat en vrac.
Donc, vous aviez pu identifier ça chez Biocop.
Ah oui, oui, il y a eu un vrai recul des ventes de vrac. Mmh. On n'est pas encore revenu à des ventes complètement stabilisées ou à des progressions qu'on a pu connaître sur l'année 2019. Donc, c'est à nous de donner confiance. Alors, effectivement, on met en place tous des processus de nettoyage, de désinfection. Il y a de la rotation dans les bacs, dans les silos. Après, la confiance, il faut la gagner au jour le jour. Mais pour l'instant, il n'y a aucune étude qui montre que la transmission se fait de plus en plus par le vrac, voire même, j'ai pu lire des études
comme quoi
le virus était sur les emballages plastiques.
Donc, je suis assez d'accord. C'est pour ça. Moi, c'est après avoir lu des études que finalement, je suis retournée faire mes courses en vrac. Mais c'est vrai que souvent, on panique un petit peu quand c'est comme ça, il faut accompagner le consommateur. Mmh. Et pour l'accompagner, ce consommateur, est-ce que vous avez mis une campagne de communication ? Comment est-ce que vous communiquez sur... Enfin, vous, je dis Biocop, toi, je te tutoie, comment est-ce que Biocop communique sur ses produits, en fait ? Parce que c'est compliqué aussi de communiquer sans trop vanter les mérites du bio, etc. Enfin, c'est toujours un parti pris à avoir, parce qu'en plus, le consommateur aime pas trop les médias en général. Donc, comment tu arrives à trouver le juste milieu aussi dans la communication ?
Nous, on n'a pas des grands moyens. On reste une entreprise. Dans la distribution alimentaire, on reste tout petit par rapport à la grande distribution. Donc, on n'a pas des moyens de communication énormes. Et nous, on a plutôt tendance à aller sur de la communication. Alors, on l'a fait à la télévision récemment. Enfin, on a fait plusieurs campagnes télé après beaucoup de débats internes dans la coopérative. Et on est plutôt sur une logique de communication sur la coopérative. Voilà, c'est la bio nous rassemble. Donc, on encourage la société et les consommateurs à percevoir cette différence qui est pour moi fondamentale chez Biocop. C'est-à-dire que c'est effectivement parce que des gens qui ont des intérêts divergents à court terme, un producteur, il veut vendre peut-être cher, un consommateur acheter le moins cher possible, il veut de la qualité, du prix, etc. Nous, tout le monde est un peu...
Il n'y a pas de marge quasiment chez Biocop.
Il y a de la marge, il y a la répartition de valeur, il y a de la marge, mais en tout cas, c'est discuté.
C'est optimisé, et puis c'est optimisé au maximum, je pense.
Et puis, on essaie de voir plus loin que ça, c'est-à-dire qu'effectivement, si on est dans une vision de court terme, on va vers le prix bas. Et ce n'est pas d'une complexité absolue, on voit bien que la consommation de masse a été vers ce système-là, mais à moyen terme, c'est hyper destructeur. La variable d'ajustement, c'est le producteur. Et ensuite, on tape sur la qualité, on rallonge, on met en concurrence des gens de l'autre bout du monde avec des producteurs français, etc. Et donc, on devient tous perdants au final. Et donc, pour avoir cette vision-là et embarquer, et en tout cas éviter que Biocop aille dans cette direction-là ou embarquer vers quelque chose de plus vertueux, le modèle coopératif, le fait que la bio nous rassemble, c'est quand même le cœur de la différenciation de Biocop. C'est-à-dire que c'est ce modèle-là qui nous fait aller vers le mieux disant. Moi, je connais personne dans mon entourage qui a envie de manger de la mauvaise qualité ou de polluer la planète ou de ne pas donner dans la cantine de ses enfants à la cantine des bons produits. Et donc, quand même, collectivement, on arrive quand même à produire ça. Donc, comment on sort de cette spirale-là ? Et donc, c'est tout le jeu de Biocop.
La demande aussi va pouvoir baisser les prix. Plus il y a de demande, plus on pourra s'aligner aussi.
Oui, certainement, c'est déjà le cas. Hein. L'écart entre le bio et le conventionnel, c'est quand même assez réduit. Il y a aussi des idées reçues. On a pu voir certaines études conso qui montrent que les fruits et légumes en magasin spécialisé sont moins chers qu'en grande distribution, en bio. Donc, il y a des idées reçues, il y a des formes de consommation. Effectivement, à prix équivalent, c'est plus cher.
Que souvent plus de saison, en fait. Vous regardez beaucoup la saisonnalité aussi. C'est pour ça. Donc, comme saisonnalité, donc plus de quantité, prix plus bas. Il y a aussi une logique comme ça.
Il y a la question des produits bruts. C'est-à-dire qu'effectivement, acheter des produits transformés, une pizza bio ou des produits transformés seront plus chers que des produits transformés conventionnels. Après, une tomate de saison bio et une tomate de saison non bio française, l'écart est beaucoup moins important. Donc, comment on avance sur ces sujets-là et collectivement, parce que c'est à la fois le sujet du producteur, du distributeur et du consommateur. Et on doit avancer vers ce monde-là, ce meilleur monde qui est possible et où tout le monde est gagnant. Le système Biocop ne crée pas de précarité.
Oui, d'ailleurs, le producteur est roi finalement dans ce système-là. Enfin, l'agriculteur... Tout, bien rémunéré, il n'a pas de...
En tout cas, on parle des coûts de production. Mmh. C'est-à-dire que sinon, si on est uniquement sur une logique prix-volume, bah, plus je t'achète, moins j'achète cher. Au bout du compte, on passe en dessous des coûts de production. On le voit, hein, souvent, c'est ce que disent les producteurs de lait ou autres, c'est qu'ils vendent à perte. Et là, donc, l'enjeu, c'est bien de partir des coûts de production. Et ça, c'est la base du commerce équitable.
On avait eu Nicolas Chaban, d'ailleurs, dans l'empreinte pour les équipes patrons. Donc, tout à fait. Et chez Biocoop, il y a donc une marque distributeur, donc Biocoop, mais il y a aussi d'autres marques que vous mettez en rayon.
Oui, il y a les marques de fournisseurs bio.
Et comment souvent. Ils sont sélectionnés parmi... pareil, cahier des charges.
Alors, on appelle ça notre stratégie fournisseur. C'est-à-dire qu'on a, en tout cas, on a une démarche de sélection des fournisseurs. On privilégie des fournisseurs qui sont 100% bio, qui fournissent essentiellement les magasins spécialisés, qui sont du monde de l'ESS, etc. Donc ça, c'est notre premier cercle. C'est le cercle, c'est la famille. Enfin, là, c'est vraiment la famille Biocoop.
Et
ensuite,
la famille.
évidemment. Enfin, en tout cas, c'est les historiques. Ouais. C'est la bio projet de société. Et après, on ouvre aussi à, enfin, évidemment, on travaille avec beaucoup de fournisseurs
qui vendent aussi. Il y a un roulement ou pas?
Est-ce qu'il y a de... Non, on est assez fidèles. Aujourd'hui, ouais. 93% de nos fournisseurs sont des TPE, PME. Donc, on est plutôt sur un écosystème de fournisseurs de petites structures avec qui on travaille depuis de nombreuses années. Donc, il y a beaucoup de fidélité. Après, il y a beaucoup d'innovations en bio. Donc, il y a beaucoup de nouveaux fournisseurs, des startups, des entreprises très innovantes. Donc, il faut aussi savoir les accueillir. Et après, on a fixé des lignes rouges.
Donc, sur les prix, notamment, peut-être des fournisseurs.
Plutôt sur les capitaux des fournisseurs, notamment. Enfin, pour l'instant, on s'interdit de travailler avec des entreprises cotées en bourse. C'est pas toujours simple. On en a encore des fournisseurs, mais on travaille à des alternatives sur plusieurs années. En tout cas, on les référence pas. Et l'idée, c'est derrière. Biocoop n'a pas vocation à travailler avec Danone ou à travailler avec L'Oréal.
Et du coup, donc la période actuelle, on en parlait brièvement, mais quel impact ça a eu concrètement? Est-ce que Biocoop, finalement, va bien dans cette période? Ou est-ce que, bon, tu me parlais du vrac qui a un peu baissé, mais est-ce que tu retrouves finalement ta clientèle fidèle ou est-ce qu'il y a des pertes en termes de chiffres quand même? Parce qu'on parle beaucoup, aujourd'hui, on dit que les grands gagnants de la crise, c'est les retailers. Est-ce que c'est vrai que c'est des grands gagnants de la crise?
Gagnants, je ne sais pas s'il y a des gagnants à la crise comme
on
ça.
On va mettre des médailles.
Évidemment,
la médaille du Covid.
C'est une période quand même particulière, mais évidemment, les consommateurs se sont... Enfin, les restaurants ont fermé, la restauration collective a fermé, en tout cas fortement au début. Et après, bon, il y a eu des... Donc, ils se sont recentrés sur des achats en commerce alimentaire classique, sont remis à cuisiner, etc. Donc, on a comme tous les magasins alimentaires... vu une croissance d'activité dans le premier confinement. Après, je pense aussi qu'il y a une vraie accélération de tendance et donc qui était une tendance de fond déjà pour Biocoop. Ça fait quand même plusieurs années qu'on est sur des croissances à deux chiffres, qui nourrit cet écosystème-là. Nous, on ne fait pas de la croissance pour de la croissance, mais en tout cas, on est ravis de voir, par exemple, qu'en 2020, on a fait 16,6% de croissance. Mais on avait fait 17% en 2019.
Donc, c'est vraiment une tendance, au-delà de... Ouais.
Oui, voilà. Donc, alors effectivement, il y a un impact Covid à un moment donné sur plusieurs semaines. Mais moi, je suis très optimiste au fait que le projet de Biocoop rencontre les attentes des consommateurs. Et j'y vais même un peu plus loin. Je pense que les consommateurs attendent beaucoup plus de Biocoop. On se fait un peu rattraper. Et donc, notre enjeu, nous, là, c'est d'aller plus vite et plus loin, quoi.
Ça allait être ma question, justement. C'est quoi les nouveaux challenges pour Biocoop? C'est ça. C'est vraiment de...
On est sur des challenges en tout cas qui sont beaucoup plus complexes.
Se multiplier peut-être.
Alors le développement, on attire beaucoup de porteurs de projets qui ont envie de construire, d'ouvrir une Biocoop. On est aujourd'hui à 700 magasins et on en ouvre 70 à 80 par an. Donc on n'a pas de problématique à cet endroit-là parce que le projet est séduisant, je pense. On a plus un problème de riche, c'est-à-dire qu'on doit sélectionner, choisir, et tant mieux. C'est-à-dire qu'on sélectionne bien les personnes qui sont en adéquation avec le projet qu'on porte. Après, les sujets autour de l'offre, de l'emballage, l'ultra-transformation, retirer les nitrites, tous les indicateurs d'ultra-transformateurs, sont des sujets beaucoup plus complexes que d'appliquer un cahier des charges ou de passer de 80% de bio à 100%. Aujourd'hui, on respecte les saisons, on est 100% bio, on ne vend pas d'eau en bouteille plastique, pas de transport par avion. Voilà, on a déjà une démarche qui est hyper aboutie, mais on développe le local. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais on est à 15% d'offres locales dans tous les magasins. Donc, avec ses 7000 producteurs. Donc, il y a des vrais écosystèmes locaux, mais ce n'est pas suffisant. Effectivement, un des grands enjeux, par exemple, c'est l'ultra-transformation, avec l'arrêt des sels nitrités dans nos charcuteries d'ici 2 ans. Voilà, on va continuer dans cette démarche-là. On travaille avec SIGA, qui est une entreprise de notation.
Voilà. J'ai obligé de dire SIGA. C'est qui, c'est SIGA? Mais en fait, non, c'est l'entreprise. C'est, non, parce que
c'est le nom de l'entreprise,
c'est,
oui.
C'est qui, c'est
CIMEC? Ah oui, SIGA. Donc voilà, en tout cas, on se fait accompagner pour aller vers l'excellence. Voilà, rendre, même quand on achète du transformé chez Biocoop, il faut que ce soit le plus brut possible. Et on sent bien que tout ça, aller au bout de ces démarches-là, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'engagement.
Beaucoup d'innovation aussi.
Beaucoup d'innovation, de travailler avec beaucoup de monde. C'est pareil pour les emballages. On peut nous dire, alors effectivement, on développe le vrac, mais on peut voir dans nos rayons biscuits qu'il y a encore des emballages individuels, etc. Le frais, le non alimentaire, les cosmétiques, encore beaucoup de plastique. On n'y arrivera pas complètement seul. Donc, effectivement, avancer sur ces sujets-là, ça va prendre plusieurs années.
Mais il faut aussi que les marques s'engagent à côté et fassent de la recherche et développement.
Que les consommateurs s'engagent avec leur carte bleue.
Le consommateur vote avec sa carte bleue. Donc,
effectivement.
Et je pense que nos auditeurs ont envie de savoir qui est Pierrick aussi derrière, derrière le CEO. Alors, est-ce que toi, tu es quelqu'un d'écolo convaincu ou tu es un peu tombé dedans par hasard?
Alors moi, je voulais travailler dans la solidarité internationale. Donc, j'ai vécu en Afrique 4 ans et en rentrant d'Afrique, moi, ce qui m'a fait aller vers le bio, alors déjà, il y avait la qualité des produits. C'est vrai qu'en Afrique, on mange plutôt bien. Enfin, en tout cas, il y en a accès à des produits sains. Ça a été vraiment la consommation de masse. C'est-à-dire, rentrer dans un hypermarché, ça m'a vraiment perturbé, voire dégoûté. C'est-à-dire que de voir... et 25 camemberts alignés, je ne voyais plus le sens de tout ça. Et donc, je suis allé plutôt vers de la consommation de proximité. Et assez naturellement, on s'est retrouvé à aller vers des magasins bio. Et après, j'ai découvert Biocoop à Lille, comme ça, en tant que consommateur.
Donc, tu es lillois?
Je suis lillois au départ, oui. Et donc, toujours même, dans le cœur, ce n'est pas qu'au départ. Mais après, la vie a fait que j'ai postulé à un emploi pour être responsable du magasin Biocoop d'Annonay. Et j'ai été recruté. Et donc après, j'en suis devenu le gérant. L'entreprise a progressé.
Tu as mis les mains dans le cambouis avant de monter
Je suis toujours sociétaire et gérant de cette structure-là, en fait. Pour avoir un mandat d'élu et être président de Biocoop, il faut être sociétaire.
Donc,
être gérant d'un magasin. Et en l'occurrence, nos 3 magasins sont gérés par les salariés. Donc moi, je suis élu par mes pairs. On est en statut SCOP. Donc, voilà. Et je ne me sens pas être un militant écologique dans le sens où j'ai très peu manifesté ou autre. Mais par contre, j'ai un fort engagement et alignement. En tout cas, j'essaye au maximum, même si, par exemple, sur le vrac, je dois encore faire pas mal d'efforts.
T'inquiète, moi aussi. T'inquiète.
J'oublie mes bocaux et mes...
Moi aussi, c'est plutôt une question d'oubli. J'arrive. Et mince, on va prendre le truc avec... Bon, il y a toujours des alternatives.
Oui, on trouve. Et puis, je rachète des bocaux. Donc, maintenant, je collectionne
bocaux. C'est ça. Moi aussi, j'ai une espèce de... Tout le monde dit que c'est de la déco. Non, c'est juste que j'ai trop de bocaux. À chaque fois, je rachète. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Pierrick.
Merci beaucoup à toi.
Merci à vous d'avoir écouté L'Empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants que Pierrick. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans L'Empreinte.